L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. L'Histoire jugera 102.3 FM. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. Les urnes ont parlé, on a beaucoup parlé des élections municipales des 15 et 22 mars. Et au moment où nous enregistrons, nous sommes justement le 22 mars, il est à peu près 21h30 en France, et les urnes viennent de parler, l'élection est terminée. Pour y aller d'une analyse à chaud et brutale, il s'appelle Gérard Le Seuil, il est député de la Seine-Maritime, 5e circonscription, membre du groupe Socialiste et Apparenté, vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et pour info, l'aménagement du territoire, c'est justement le ministère qui se préoccupe des villes et des communes. Il a accepté notre invitation. Gérard, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci de cette invitation qui me donne l'occasion, outre-Atlantique, de donner un petit message de ce qui se passe en France ce soir d'élection municipale.
Voilà, donc on en a beaucoup parlé, donc c'était des élections assez importantes. De prime abord, vous, Gérald, en tant que socialiste et apparenté, est-ce que vous avez passé une belle campagne électorale ou non?
Alors, je n'étais pas à titre personnel candidat aux élections municipales, puisque en France, nous avons maintenant une incompatibilité des mandats exécutifs locaux et de députés. Donc, je me consacre à mon mandat de député, mais c'était plus d'une semaine, hein. Ça a été plusieurs semaines effectivement très actives, des semaines de tension, de stress aussi bien sûr, parce qu'il y a un premier tour, et il y a un deuxième tour, il y a parfois des alliances, parfois des mésalliances, et donc je suis dans une circonscription qui comporte 69 communes, et ces 69 problématiques différentes qui parfois sont très éloignées des problématiques ou en tout cas du débat national, et qui parfois au contraire, sont très influencés par les grands débats nationaux que nous pouvons avoir en France aujourd'hui.
Voilà. Faut-il le préciser, 35 000 communes et le 22, il en restait 1526 à attendre le verdict des électeurs. Alors, si on porte déjà un premier jugement sur Paris, la capitale, Emmanuel Grégoire est élu, donc le Parti socialiste se maintient. Êtes-vous soulagé?
Alors je suis soulagé, j'ai une petite tristesse parce que la victoire de mon ami Emmanuel Grégoire va l'enlever de l'Assemblée nationale pour le laisser à 100% à Paris maintenant, et donc je serais triste de le voir quitter les bancs de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, mais je suis extrêmement heureux pour lui, pour toute son équipe et pour tous les Parisiens. Il a fait une très belle campagne, très digne, très humaine, et il fait un très beau score, et donc ce score est mérité eu égard à sa campagne. Et dans le cadre d'une triangulaire, il obtient la majorité absolue. Il fait plus de 53% des voix, ce qui est un très bon score dans une triangulaire. Et il avait, je le rappelle, face à lui, Rachida Dati, qui est ancienne ministre de la Culture, qui est bien connue aussi des Parisiens. Et il avait une candidature LFI aussi contre lui. Donc il était seul, si je puis dire, face à deux femmes qui ne voulaient qu'une chose, c'était le battre. Et grâce à sa belle campagne très digne, il réussit à conserver, nous réussissons à conserver la ville de Paris. Je rappelle que c'est une alliance aussi où il y avait les Verts, les écologistes donc, et les communistes et Place Publique qui avaient rejoint bien sûr Emmanuel Grégoire pour cette campagne.
Et dans le même ordre d'idée, une grande coalition de gauche élargie a finalement réussi à garder Lyon contre Jean-Michel Aulas. Êtes-vous surpris parce qu'il était donné favori selon les sondages, Jean-Michel Aulas? Et voilà que Grégory Doucet se maintient. Comment vous expliquez sa réélection?
Alors, vous avez raison, ce n'était pas une réélection assurée. C'est un maire écologiste à la tête d'une union de la gauche, très large, et il y a eu peut-être des maladresses, peut-être des incompréhensions avec la population lyonnaise, qui faisaient que finalement l'opposant Jean-Michel Aulas apparaissait favori. Mais je pense que les électeurs lyonnais n'ont finalement pas souhaité avoir un maire, certes, sans doute, peut-être compétent. Il l'a été à l'Olympique lyonnais, mais ça n'en fait pas nécessairement le candidat pour une mairie. Et il était un peu vieillissant. En tout cas, je pense qu'il n'a pas su incarner l'avenir, ce que Doucet a réussi à faire. Donc, voilà. Doucet a déjoué les pronostics et c'est une très bonne chose. Je suis très content que la deuxième ou troisième ville de France reste à gauche dans une union large. Et d'ailleurs Marseille aussi, les trois premières villes de France restent à gauche dans des cas de figure un peu différents puisque les alliances n'ont pas été totalement identiques. Mais nous réussissons à contenir le Rassemblement national et à contenir la droite radicale et à contenir dans une certaine mesure la gauche très radicale qui voulait que Marseille et Paris ne soient pas gagnés par les socialistes. Donc nous sommes ce soir très satisfaits de ces résultats.
Et si on regarde à l'opposé, c'est le cas de le dire, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, Nice qui oscillait entre une droite et une extrême droite, voilà qu'Éric Ciotti finalement finit par battre Christian Estrosi. Qu'est-ce que ça indique pour l'avenir qu'un mec comme ça, bon, un ex-LR très proche de Marine Le Pen, pour ne pas dire finalement presque un lepeniste qui se cache, qui vient de gagner la mairie de Nice, qu'est-ce que ça augure selon vous pour l'avenir?
Alors, ce qui est très compliqué, et vous l'avez vu à travers les résultats déjà des quelques villes que nous avons évoquées, c'est qu'il va être difficile et ça va nous prendre du temps pour tirer un enseignement national de ces élections municipales. Parce qu'à chaque élection locale, vous l'avez rappelé, hein, 35 600 communes, à chaque fois c'est un enjeu un peu différent parce qu'il y a des personnalités, parce qu'il y a une culture municipale, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des combats locaux. Bien sûr, la politique nationale a son influence, mais parfois, c'est une alchimie locale qui est très particulière. Et on se retrouve à Nice, qui est une ville de droite, qui a toujours été de droite, avec deux candidats, vous l'avez rappelé, un de droite dure et un de droite droite. Bon, le choix pour un électeur de gauche comme je suis aurait été extrêmement délicat. D'ailleurs, il y a une liste de gauche qui s'est maintenue, qui a permis quand même à quelques électeurs de s'y retrouver. Mais je ne sais pas ce que ça augure. Ce qui est sûr, c'est que le sud de la France se radicalise un peu et nous avons des villes qui deviennent plus à droite qu'elle ne l'était. Mais ce n'est pas non plus la victoire du Rassemblement national ni de l'extrême droite qui échoue dans beaucoup d'endroits à prendre des villes qui étaient espérées. Je pense à Toulon, par exemple, qui était vraiment dans le viseur du Rassemblement national. Eh bien, l'extrême droite échoue à prendre la ville de Toulon qui reste dans une droite, on va dire, plus républicaine. Donc c'est très difficile ce soir de tirer des enseignements. Nous avons même des villes, c'était chose un peu improbable en France, qui rebasculent à gauche dans une union tenue par le Parti communiste. Et donc nous avons des villes sur le papier qui basculent communistes, je pense notamment à Nîmes. Donc aujourd'hui, on voit que ce résultat de l'ensemble des 1500 mais des 36 500 communes est à la fois un mélange de problématiques nationales, de positionnement national des candidats, mais aussi d'une alchimie locale qu'il est très difficile de décrypter lorsque l'on n'est pas justement un natif de la commune.
Voilà, je le rappelle donc, Gérard Lesueil, vous êtes député de la Seine-Maritime, 5e circonscription, membre du groupe socialiste et apparenté, vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et je le rappelle, nous enregistrons à quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le 22 mars, donc deuxième tour de cette élection municipale. En terminant, Gérard, ben, dans un an, ce sera, c'est le cas de le dire, les Jeux olympiques de la politique, élection présidentielle suivie des élections législatives. En fonction des élections municipales, en fonction des résultats globaux, comment vous percevez ce grand rendez-vous de 2027 qui va être compliqué, il faut le dire, là?
Oui. oui, ce grand rendez-vous va être compliqué et on voit bien que certaines formations politiques voulaient absolument politiser le débat local, même dans les petites bourgades, parce que c'était l'échauffement des Jeux Olympiques, comme vous dites. Et donc ça a parfois troublé ou perturbé l'élection municipale un petit peu traditionnelle que nous connaissons en France. Et donc là, nous avons, on le voit, une certaine radicalité qui s'est exprimée dans les urnes et qui a parfois gagné certaines villes. Mais LFI, la France Insoumise, finalement, ne gagne pas tant que ce qu'elle espérait. Elle gagne quelques villes qui, pour elle, sera forcément considérée comme une victoire absolue et très emblématique. Mais finalement, elle est contenue dans beaucoup d'endroits. Le RN, c'est pareil. Il ne gagne pas grand-chose. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une influence forte dans le cadre de l'élection présidentielle. Il y a une élection à laquelle nous n'avons pas encore fait référence, qui est importante en France, qui sera les élections sénatoriales au mois de septembre, pour moitié, et qui permettra de voir dans les petites bourgades si finalement des élus sans étiquette expriment quand même une préférence pour tel ou tel groupe politique. Mais la droite n'est pas sortie d'affaire en France, la gauche n'est pas sortie d'affaire et les extrêmes n'ont pas gagné.
Voilà une partie de la réponse, donc en septembre, la moitié du Sénat en ballottage, pour reprendre une expression, et l'année prochaine, bien entendu, élection présidentielle et élection législative. Gérard Le Seuil, merci beaucoup pour l'entretien. On va vous souhaiter une bonne année de paix politique, j'en doute, mais quand même de tranquillité politique désormais.
Je vous remercie. Mais vous savez que l'Assemblée nationale, depuis quelques mois, et nous avons réussi à faire adopter quelques textes de loi, nous avons même réussi à adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale, finalement, apprend peut-être à discuter autrement que par une majorité et une minorité. Et donc, nous avons encore à grandir dans notre démocratie française.
Voilà.
Merci à vous de m'avoir invité.
Ça nous fait un grand plaisir. Merci à vous. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. Nous enregistrons en mars, mois de la francophonie. Pour mémoire, 20 mars, journée internationale de la francophonie. Et surtout, dans quelques mois, en fait, cet automne, 15 et 16 novembre, c'est confirmé, sommet de la francophonie du côté du Cambodge, à Phnom Penh et à Siem Reap. Et on va se concentrer d'ailleurs sur Siem Reap avec un invité de Radio Centre-Ville. C'est pas sa première présence, ça nous fait toujours plaisir de le recevoir. Il s'appelle François Schnobelen. Il est président de la section Siem Reap de la Chambre de commerce et d'industrie France-Cambodge, ccifcambodge.org pour en savoir davantage, et également directeur de l'école d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrulle. Il a accepté notre invitation en duplex avec Siem Reap. François, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler justement de ce sommet de grande importance pour le Cambodge globalement et surtout pour Siem Reap où vous êtes, la Chambre de commerce et d'industrie France-Cambodge, quel est votre, j'ai envie de dire, en tant que président de cette section, quel est votre cahier des charges?
Alors, notre cahier des charges, c'est déjà de nous occuper de nos membres. Donc, nous avons au Cambodge entre 250 et 300 membres à la Chambre de commerce. Et sur Siem Reap et Battambang en particulier, c'est une petite section de 36 membres. Donc, nous nous occupons de ces entreprises prioritairement et de leur rapport avec leurs partenaires cambodgiens. Donc, nous essayons de faire un pont entre le monde des affaires francophones en général, français en particulier, pour la Chambre de commerce française, mais je crois que la CCIFC Siem Reap est aussi très présente sur le monde de la francophonie, puisque depuis déjà 3 ans, nous organisons un village de la francophonie qui va bien au-delà des entreprises qui ont un lien avec la France. C'est aussi toutes les entreprises qui ont un lien direct ou indirect avec la francophonie que nous accompagnons et que nous essayons de promouvoir ici à Siem Reap. Donc cette chambre de commerce a beaucoup de à beaucoup de membres qui sont dans l'hôtellerie restauration, puisque Siem Reap, c'est un haut lieu du tourisme cambodgien. C'est le lieu que l'on visite en général quand on vient au Cambodge pour les fameux temples d'Angkor. Et du coup, forcément, un très grand nombre des entreprises sur la région de Siem Reap sont des entreprises liées au tourisme. Maintenant, nous avons aussi des entreprises plus variées dans la high-tech un tout petit peu. Nous avons des entreprises dans le consulting, nous avons aussi des entreprises dans les services, dans les assurances, les banques. Bon, bref, on couvre à peu près tous les secteurs qui puissent exister sur cette région du nord du Cambodge.
Ah ben justement, cette section sera visitée par au moins 88 pays, du moins représentant des 88 pays membres de l'OIF. Est-ce que au mois de novembre à Siem Reap, ça va être un grand moment pour vous?
Alors, ça devait être uniquement sur Siem Reap initialement. Maintenant, l'essentiel quand même du sommet sera plus sur Phnom Penh, mais nous allons avoir des délégations qui vont venir sur Siem Reap. Nous aurons aussi un village qui sera... il y aura deux villages de la francophonie, un sur Siem Reap et un sur Phnom Penh. Il y aura aussi des activités, des événements, des avant-premières qui vont se produire sur Siem Reap autour de ce sommet. Nous aurons beaucoup de visites et évidemment des temples de beaucoup de délégations qui ont déjà annoncé qu'elles viendraient visiter Siem Reap. Donc pour nous, oui, évidemment, on s'attend à un impact fort. Je dirais plus généralement sur le Cambodge. En général, le Cambodge reste un petit pays, donc Siem Reap et Phnom Penh ne sont pas très éloignés. C'est 300 kilomètres entre les deux villes. Donc alors évidemment, vu du Canada, c'est tout petit. Mais donc vu du Cambodge, donc on a quand même quelques heures de route. Et donc, entre ces deux villes, il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de présence internationale, et on s'y prépare activement en collaboration avec le gouverneur de Siem Reap, en collaboration avec les différents ministères qui sont présents ici, mais aussi en collaboration avec toute la population et le tissu associatif. L'Alliance française est très présente sur cet événement. Il va y avoir un opéra pour enfants qui sera réalisé à cette occasion-là, qui a été présenté à plusieurs personnes sur ce projet. Donc on a beaucoup de sponsors qui nous ont accompagnés sur ces événements culturels. Nous montons déjà en gamme, c'est-à-dire que nous avons déjà des activités qui commencent en préparation. Nous avons eu un concert classique qui a été fait sur plusieurs endroits à Siem Reap en prévision de la francophonie. Et tout au long des mois qui viennent, eh bien, nous montons un peu en puissance. Il y a des préparations sur ce fameux village, sur des événements connexes, sur des rencontres internationales, des rencontres des entreprises. Il y aura aussi des rencontres plus françaises, comme la French Tech qui va avoir lieu, alors plus sur Phnom Penh, mais pareil. Un certain nombre de ces entreprises de la French Tech ont déjà annoncé qu'elles viendraient sur Siem Reap. Donc voilà, donc on se prépare à ce grand événement qui, pour nous, est assez unique. C'est la première fois que le Cambodge reçoit un événement de cette ampleur, avec 88 délégations de 88 pays, même peut-être plus, puisqu'il y a les 88 pays de la francophonie. Et vous savez, le pays qui organise peut aussi inviter lui-même d'autres pays qui ne font pas partie de la francophonie pour découvrir, pour partager. C'est toujours la francophonie, c'est le partage des cultures, c'est le partage des valeurs, c'est la diversité. Et donc, je crois que le Premier ministre cambodgien a déjà annoncé qu'il aimerait inviter un certain nombre de ses pays voisins pour rencontrer le monde de la francophonie qui vient à nous.
Est-ce que vous pourriez dire, vous qui êtes, témoin d'une certaine vie française au Cambodge, est-ce que vous pouvez dire que le Cambodge est francophile? Je vous pose la question parce que beaucoup de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, on n'a pas nécessairement l'impression que c'est plus pour des raisons économiques, mais est-ce qu'il y a encore un amour de la langue française pour les Cambodgiens?
Alors, il faut quand même rappeler un peu l'histoire. À l'origine même de la francophonie, il y avait bien sûr Senghor, il y avait plusieurs personnalités politiques importantes de premier rang, mais le roi Sihanouk lui-même était le demandeur de cette francophonie. Donc, le roi Sihanouk, à l'origine, donc en 1970, avait appelé à la signature de cet accord entre les pays de la francophonie. Il voulait créer cet univers de la francophonie. Donc, le roi Sihanouk était à l'origine. Il n'y avait pas beaucoup de pays, il y avait 7 pays à l'origine de cette idée-là. Et le Cambodge en faisait partie déjà. Donc je crois qu'il y a quand même un ancrage historique fort. Après, il y a eu tous les soucis que le Cambodge a rencontrés, la guerre civile, le roi a été déposé juste avant la signature de la création en mars 1970, je crois, ou 71, je ne sais plus, je crois que c'est mars 71. Et donc c'était genre, il a été déposé, je crois, 20 jours avant ou 10 jours avant. Donc il n'a pas pu signer. Par contre, il était volontaire. Et quand il est revenu au pouvoir, évidemment, ça a été une de ses premières actions, c'est de réintégrer le Cambodge dans le dispositif de la francophonie. Alors, quelle est l'histoire de cette francophonie chez nous? D'abord, bien sûr, le Cambodge était un protectorat français, donc il y avait évidemment beaucoup de francophones à l'origine. Beaucoup ont perdu la vie pendant la guerre civile. Ils étaient particulièrement visés par les Khmers rouges. Mais beaucoup ont fui et sont revenus. Et donc, vous avez toute une diaspora cambodgienne qui a fui les Khmers rouges en France et qui sont revenus ensuite. Et donc, parmi eux, vous en avez beaucoup qui sont dans le gouvernement. Vous avez près de 45% des ministres du gouvernement qui parlent couramment français. Moi, quand je rencontre le ministre du Tourisme ou quand je rencontre le ministre de la Justice ou le ministre des Affaires étrangères, un certain nombre de ministres très importants dans ce gouvernement parlent couramment français. Le gouverneur de Siem Reap parle couramment français. Donc quand je les rencontre, quand je rencontre des secrétaires d'État, eh bien, j'ai des discussions qui se déroulent en français. Donc la langue française est tout à fait admise. Et puis je dirais, au plus haut niveau de l'État, toute la famille royale parle français. Le roi lui-même a vécu en France et parle français. La reine-mère est à moitié française, donc elle parle bien sûr couramment français. Donc toute la famille royale autour du roi parle français. Une bonne partie des ministres parlent français. Quand vous voulez aller vous faire soigner dans un hôpital, eh bien vous pouvez parler français parce que tous les médecins, pour faire médecine pendant plus de 20 ans, 30 ans, il fallait impérativement parler français avant. Donc, et c'est encore vrai aujourd'hui. Si vous voulez faire médecine ou si vous voulez être infirmier ou infirmière, il faut d'abord apprendre le français pour ensuite rejoindre une université où on vous enseignera la médecine en français. Vous avez des échanges avec les internes des hôpitaux qui, depuis de très nombreuses années, vont dans des pays francophones pour apprendre pour être interne, donc dans les hôpitaux, faire leur première expérience de médecine. Vous avez aussi de manière très très vivante des classes bilingues. Vous avez des écoles qui continuent d'enseigner le français. Vous avez des alliances françaises et un institut français très très dynamique. Un lycée français au cœur de Phnom Penh qui est très dynamique. Une école française aussi à Battambang et une autre à Siem Reap. Donc la langue française est très présente. Elle est présente par des ONG, elle est présente par des écoles publiques, elle est présente dans des classes bilingues, elle est présente par des échanges universitaires, elle est présente par l'OIF qui accorde, effectivement, vous l'avez dit, il y a un besoin économique, et bien il y a aussi une aide économique de l'OIF, et il faut la reconnaître, et elle est là, mais elle n'oublie jamais l'impact de la langue française, et elle donne une impulsion, non pas de la France, c'est très important, mais de cette diversité que représente la francophonie dans le monde. Et puis, quand on fait des événements, le Québec était présent à notre dernier village de la francophonie à Siem Reap l'année dernière. La déléguée générale de la francophonie, Catherine Tadros, est venue de Singapour à Siem Reap pour avoir un stand, pour tenir un stand, pour venir rencontrer les Cambodgiens. Et elle a eu un immense succès. Donc le Québec est très apprécié ici et était connu. Donc les gens savaient ce qu'était le Québec. Donc voilà, je crois que la francophonie, elle existe ici. Vous avez aussi des entrepreneurs qui sont malgaches, vous avez des entrepreneurs d'autres pays de la francophonie qui sont présents ici sur le Cambodge et notamment sur Siem Reap. Donc je crois que non, la francophonie est vraiment quelque chose de vivant. Alors évidemment, c'est pas un pays dans lequel vous avez une proportion importante de la population qui parle français. Mais vous rencontrez encore des personnes âgées qui parlent couramment français, vous rencontrez des jeunes qui parlent français parce que grâce aux rapports, aux relations économiques qu'ils ont eues par l'aide internationale, eh bien, ils ont dû apprendre le français et le français fait partie de leur quotidien. Donc moi, j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, je suis le directeur de l'école Paul Dubrulle, J'envoie une trentaine, quarantaine d'élèves tous les ans en France pour faire des stages de 6 mois. Ils doivent avoir un niveau B1 de français, c'est-à-dire un niveau tout à fait correct, courant de français. Et quand ils reviennent au Cambodge, ils reviennent avec ces connaissances-là. Et quand ils travaillent dans des hôtels, quand ils travaillent dans des agences de voyage, eh bien, ils utilisent le français très, très couramment. On a des élèves, notamment, qui vont travailler dans des agences de voyage qui reçoivent beaucoup de clients de touristes francophones. Les touristes francophones sont très importants au Cambodge.
Voilà, je le rappelle donc, François Schnobelen, vous êtes président de la section CINRAP de la Chambre de commerce et d'industrie France-Cambodge, la CCI France-Cambodge, donc ccifcambodge.org pour en savoir davantage. Également directeur de l'école d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrulle, donc écolepauldubrulle.org. En duplex avec CINRAP, François, merci beaucoup pour l'entretien. On vous souhaite une bonne préparation francophone d'ici novembre.
Merci beaucoup, François.
Toujours à Radio Centre-Ville, oui. Le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'études sur la francophonie, cette fois-ci direction le Danemark. Est-ce que le Danemark est un pays francophile? Ben, c'est ce qu'on va vérifier. Il s'appelle Knud Michael Persson. Il est président de l'Alliance française de Frederikssund. Au Danemark, au nord du Danemark. Il a accepté notre invitation et ça nous fait un grand plaisir. Alors, Knud Michael, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous.
Merci à vous, monsieur.
J'espère bien prononcer votre nom. Excusez-moi si je le massacre, mais vous me corrigez, le cas échéant. Alors, voilà, donc, c'est l'heure de poser un diagnostic sur le français en Scandinavie et cette fois-ci autour du Danemark. Globalement, diriez-vous que les Danois sont francophiles?
Oui, on peut dire qu'on est francophile dans le sens qu'on aime bien la France, on aime bien faire les vacances, passer les vacances, faire du ski et nager dans la mer Méditerranée. Et oui, faire le tourisme, quoi, oui.
Mais globalement, est-ce que les Danois apprennent le français? Parce que dans le marché des langues secondes, c'est un marché, hein, il y a de la compétition, évidemment l'anglais ramasse tout le monde, mais est-ce que par rapport à d'autres langues comme l'allemand, comme l'espagnol, comme le russe à la limite, comme l'arabe, est-ce que le français a une place dans les écoles?
Oui, la langue française a toujours une place dans les écoles, mais c'est vrai qu'on sent maintenant que la langue française est un peu en baisse, on peut dire menacée un peu par les autres, surtout l'anglais, parce que vraiment beaucoup de choses se passent en anglais. Mais en même temps, il y a des relations, surtout les relations royales, entre les deux pays, et ça se voit, et on le sent bien que ça compte maintenant aussi. On a des relations politiques avec la France qui nous soutient maintenant, donc je pense que ça joue un rôle important, oui. Oui.
Quelle est votre mission à l'Alliance française précisément? Dans votre Alliance française, vous êtes, j'imagine, une porte d'entrée vers la France, mais qu'est-ce qu'on découvre chez vous?
Écoutez, ici au Nord, on est seulement une cinquantaine de gens, mais ça augmente maintenant parce qu'on essaie d'être de plus en plus actifs et faire plus d'activités pour nos membres. Et on vient justement de commencer encore une fois de faire des enseignements, c'est-à-dire on a toute équipe qui apprend le français chez nous en ligne, et ça attirait des gens, et en fait, mais c'est une sorte de partage, c'est-à-dire on est une équipe qui s'intéresse beaucoup à la langue française, la culture, la gastronomie, la géographie, les relations, la convivialité et tout. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, et on essaie vraiment d'attirer encore plus de gens, surtout les jeunes. Mais c'est ça qui est difficile, bien sûr, mais on essaye, on lutte.
Voilà. Est-ce que globalement, justement, les jeunes, comment on peut les convaincre, en fait, les intéresser à une autre langue seconde que l'anglais? Évidemment, on apprend une langue souvent parce qu'on veut voyager dans le pays, parce qu'on a une offre d'emploi. Les jeunes, pourquoi s'intéresseraient-ils au français, selon vous? Pourquoi faudrait-il les intéresser?
En fait, on vient justement d'assister à une conférence à Aarhus. C'est une plus grande ville. Il y avait 150 jeunes étudiants. Et on a parlé avec quelques de ces étudiants. Et ils ont dit... écoutez, la langue, je trouve vraiment que la langue française est une belle langue, et je vois bien que ça ouvre des portes dans le monde, pas nécessairement dans le sens de travail, mais je pense que ça peut ouvrir beaucoup de choses, et là je suis tout à fait d'accord.
Voilà.
Quand on maîtrise une autre langue, ça ouvre des portes sur le plan personnel, avec beaucoup de relations, peut-être aussi commerciales.
Voilà. Oui. Globalement, pourriez-vous dire que le français en Scandinavie, globalement, et plus particulièrement au Danemark, a des beaux jours devant lui où il faut travailler fort?
Je sais qu'il faut travailler fort, mais je ne sais pas, dans les longs termes, peut-être que... ça serait plus facile, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est ce que je sens maintenant, parce qu'on a chez nous plus de réussite actuellement. Donc peut-être que c'est une vague, mais je ne sais pas exactement comment expliquer pourquoi.
Voilà.
Mais on sent que c'est une belle langue.
Ben, je nous le souhaite. Voilà. Donc, je le rappelle, donc, nu de Michael Pearson, vous êtes président de l'Alliance française de Fredrikshavn au nord du Danemark. Merci beaucoup pour l'entretien et on va vous souhaiter une belle année francophone. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'analyses sur l'égalité femmes-hommes dans le sport. On se concentre cette fois-ci sur le volleyball, un sujet qu'on a traité quelque peu, mais pourquoi pas. Et cette fois-ci, avec une spécialiste qu'on a déjà reçue à Radio Centre-Ville. Elle s'appelle Anne-Sophie Griette. Elle est responsable des partenaires du Terville-Florange Olympic Club en duplex avec Terville en Moselle dans le Grand Est. Elle a accepté notre invitation. Anne-Sophie, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François, merci de m'accueillir à nouveau.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Et je le précise, pour en savoir davantage sur votre club, tfoc.fr pour en savoir davantage. Voilà, parlons de volleyball, parlons d'égalité femmes-hommes, parlons de volleyballeuses surtout. Anne-Sophie, les joueuses de volleyball en France sont-elles des rockstars, des inconnues ou moite-moite?
On va dire que c'est moitié-moitié. On a beaucoup de joueuses qui sont encore inconnues sur le devant de la scène internationale. On a quelques joueuses qui viennent de l'étranger qui sont très reconnues dans leur pays. Malheureusement, en France, ça a encore du mal à prendre. Voilà, l'objectif, c'est que dans les années futures, on puisse être un sport qui soit populaire, que les personnes se reconnaissent et s'identifient aux joueuses. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Si on compare avec l'équipe masculine en France, où on a des joueurs vedettes, de là leur titre de champion du monde ou champion olympique, je prends l'exemple de Elvin Engapet, qui est aujourd'hui une star internationale et incontestée sur la scène du volleyball. Au niveau féminin, nous n'avons pas encore cette notoriété.
Alors, comme tout repose sur la diffusion médiatique, Anne-Sophie, quand vous regardez les médias, quand vous ouvrez les journaux, quand vous regardez les sites de nouvelles sportives ou sites de nouvelles généralistes, est-ce qu'on parle de vous ou vous êtes absente ou il faut vous chercher longtemps?
Il faut plutôt nous chercher. on va être présent souvent sur les journaux locaux. Au niveau national, ça va être un peu plus compliqué. On manque de médiatisation, on manque de notoriété. Bien sûr, cela va avec les résultats sportifs et les stars qui jouent pour nous. Aujourd'hui, je pense que si on avait eu de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, peut-être que nous aurions pu avoir une projection un peu plus haute sur la notoriété dans les médias et dans les journaux nationaux.
Est-ce que globalement, un peu partout en France, des jeunes filles peuvent jouer au volleyball? J'ai l'impression que oui, après tout, vous jouez dans un gymnase, des clubs sportifs, il y en a partout, et un terrain de volleyball, bon, c'est à peu près l'équivalent d'un terrain de basket. Est-ce que c'est facile pour une jeune fille de jouer au volleyball et d'aspirer à une carrière?
Alors, pour le coup, de nombreux jeux sont mis en place. Que ce soit par les communes, les agglos, voilà, l'idée c'est vraiment de rendre ce sport accessible. C'est un sport qui peut être pratiqué dès le plus jeune âge pour la motricité, pour le contact relationnel pour les plus jeunes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il manque de clubs sur le territoire français. Il y a la possibilité d'en trouver. Parfois, il faut faire un petit peu plus de route forcément selon les localisations, mais cela reste accessible. Il suffit simplement de trouver un gymnase, avoir le filet, et normalement tout peut se faire.
Est-ce qu'il y a quand même une communauté, disons, un peu tissée serrée du volleyball féminin? Est-ce que entre clubs, entre joueuses, vous sentez le besoin de vous serrer les coudes pour mieux promouvoir votre sport? Parce que, effectivement, c'est peu connu, on entend peu parler dans les médias. Pour créer justement un engouement, pour remplir vos amphithéâtres, est-ce que vous avez des solutions?
On essaye, on s'entend très bien avec les autres clubs, nous de la Ligue, que ce soit au niveau pro comme au niveau National 2. On a une équipe aussi du centre de formation du coup qui joue en National 2. On essaye de faire un maximum avec les autres clubs, que ce soit pour les aider, que ce soit en termes de visibilité sur nos réseaux sociaux aussi pour qu'ils puissent se faire connaître. On essaye de serrer les coudes, parce que c'est assez compliqué aussi de survivre. Je ne sais pas si vous aviez un petit peu suivi, mais la saison passée, deux clubs de Ligue A ont mis la clé sous la porte. Enfin, un club a mis la clé sous la porte et un club a décidé de descendre de division parce que ça n'allait plus financièrement. On voit qu'il y a quand même besoin en fait de se serrer les coudes pour que notre sport puisse continuer à se développer.
Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver des commanditaires ou est-ce que c'est un parcours de combattante pour encourager des compagnies à s'afficher sur vos maillots ou autour du terrain?
En termes de visibilité, ça devient, pour ma part en tout cas, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué, dans le sens où les personnes préfèrent maintenant favoriser l'événementiel. Je m'explique. Peut-être proposer à leurs salariés ou à des clients de venir voir un match, de faire une masterclass avec les joueuses, de faire une initiation volley. Aujourd'hui, trouver un sponsor maillot ne va pas forcément rapporter d'argent à l'entreprise, à la compagnie. L'idée, ça va être de proposer de nouvelles solutions qu'on adapte avec notre temps ou en fonction du partenaire en face et de sa demande, de son besoin. Aujourd'hui, la visibilité reste très présente dans le gymnase avec les joueuses. On essaye quand même de faire des petites vidéos TikTok, des vidéos sur Instagram, d'être très présent sur les réseaux sociaux parce que c'est la première chose qu'on va retenir d'un partenaire. Je l'ai déjà vu là, ou je sais qu'il est partenaire du club, il est partenaire du volley, il suit les filles, il est très présent, il fait beaucoup de choses avec. Donc ça reste quand même hyper important, même si aujourd'hui on voit que ça évolue. Sur la demande.
Est-ce que c'est envisageable des partenariats avec d'autres sports? Il me semble avoir vu, justement, dans les médias sociaux, un club de handball qui annonçait un match avec, disons, en première partie, comme un show rock, un match de volleyball. Est-ce qu'à la limite, une journée, un après-midi, avec deux tournois de deux sports différents, donc en l'occurrence, vous mettre partenaire avec une équipe de volleyball qui jouerait après vous. Est-ce que ça peut être une solution pour mieux diffuser votre sport?
Alors, ça pourrait être une superbe idée. Nous, sur, en Moselle, du coup, on a la chance d'avoir Metz Handball, qui est, je ne sais plus combien de fois, champion de France sur l'équipe féminine, qui fait depuis 3 ans ou 4 ans maintenant le final fort de Ligue des Champions. Voilà, donc une très, très grosse équipe avec qui on s'entend plutôt bien. On a des bonnes relations. Ça pourrait être intéressant de faire, parce qu'on joue aujourd'hui à aller 30 minutes de leur gymnase, on pourrait faire une soirée volleyball, handball, et ça pourrait très très bien marcher. Au dernier match, on a eu les supporters de ce même club qui sont venus encourager nos filles, et l'idée c'est de promouvoir un petit peu tout ça. On est des deux clubs conscients aujourd'hui que le sport féminin a besoin de cette notoriété, de cette visibilité pour pouvoir avancer. Alors ils sont très ouverts à échanger avec nous et également de l'autre côté. Et même s'il y a aujourd'hui d'autres sports que le handball, ça peut être le foot féminin, ça peut être le water polo, ça peut être d'autres sports d'équipe ou même individuels. Aujourd'hui, on sait qu'il faut se serrer les mains, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau amateur.
Voilà. Ben justement, parlons-en de la Moselle. Alors, quand je pense handball, je pense le nord de la France, donc grosso modo les Hauts-de-France, le Grand Est. Quand je pense rugby, je pense autour de Toulouse. Est-ce qu'il y a une terre naturelle du volleyball en France? En fait, est-ce que la Moselle est-ce que la population de la Moselle a le volleyball dans l'ADN ou pas tant que ça?
Alors, j'ai envie de dire que depuis peu, oui, surtout au niveau Grand Est. Alors, il y a quelques années, le monopole était vraiment sur le sud de la France, avec Cannes, qui avait aussi gagné la Ligue des Champions. Aujourd'hui, rien que sur le Grand Est, on a 4 clubs qui sont en Ligue A. Alors, pour les citer, on a le TFOC, bah, du coup, nous-mêmes, Vendeuvre-Nancy, on a Mulhouse et on a Saint-Dié. Et cette année, pour la finale de la Coupe de France de volley féminine, on a 2 clubs du Grand Est, c'est-à-dire Mulhouse et Vendeuvre, qui vont s'affronter pour la finale. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui que le Grand Est est au cœur du volley féminin.
Voilà, je le rappelle donc Anne-Sophie Griette, responsable des partenaires du Thierville-Florange Olympic Club, tfoc.fr pour en savoir davantage, en duplex avec Thierville à 30 kilomètres de Metz. En terminant, Anne-Sophie, êtes-vous optimiste pour l'avenir du volleyball féminin globalement, mais en France en particulier?
Alors, j'espère l'être, parce qu'il y en a besoin. C'est un superbe sport qui prône de très belles valeurs. On peut faire d'énormes choses, de belles choses. C'est un sport qui est accessible à tout le monde, sur lesquels on peut travailler pour des sujets de tous les jours, que ce soit pour les jeunes filles, que ce soit pour les jeunes garçons aussi. L'idée, c'est de pouvoir promouvoir ce sport et de continuer à avancer ensemble.
À suivre, en duplex avec Thierville, Anne-Sophie, merci beaucoup pour l'entretien. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre série d'analyses sur l'égalité femmes-hommes dans le sport et on se dirige du côté, cette fois-ci, de l'Angleterre, de la Barclay Women's Super League, avec une entrevue exclusive et c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir la réaliser cet après-midi avec Océane Deslang, qui est défenseur centrale d'Aston Villa Football Club de, justement, la Barclay Women's Super League. Et pour en savoir davantage, avfc.co.uk, comme UK, bien entendu. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Birmingham, ex-joueuse du Montpellier Hero SC. Océane, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Ça nous fait un grand plaisir. Alors Océane, on va poser un diagnostic sur le football féminin globalement, mais surtout en Angleterre, puisque c'est ton club, c'est ta ligue. Bon, la question peut paraître un peu naïve, mais vous, les footballeuses qui jouent en Angleterre, êtes-vous des rockstars, des inconnus ou moite-moite?
je dirais moite-moite. On est connus pour nos fans et on va dire inconnu pour ceux qui ne s'intéressent pas au football féminin.
Est-ce qu'il y a quand même un engouement dans vos stades, c'est-à-dire après vos matchs, est-ce que des jeunes filles crient vos noms, réclament vos maillots? J'ai un peu cette impression, puisque comme tu sais, à deux reprises, l'équipe anglaise a gagné l'Euro et ça crée nécessairement un intérêt, mais est-ce que tu vois un intérêt grandissant?
Oui, bien sûr, grandissant surtout, je pense que c'est le mot. Je peux comparer aussi à la France. Il y a plus de fans et de supporters ici en Angleterre, plus d'engouement dans les stades. Aussi de part qu'on joue dans les stades des garçons, donc forcément un stade plus agréable, donc des matchs plus agréables à regarder pour les fans. Et pour nous, à Aston Villa, on a des fans qui sont tout le temps là, aussi en déplacement à l'extérieur. Je sais que des déplacements sont organisés aussi par le club pour les supporters, des bus, etc. Et c'est quelque chose de super intéressant. Donc, on a nos fans avec des fans qui ont nos maillots, qui n'ont pas les maillots des garçons. Ça change aussi de la France. Parce qu'en France, généralement, ils viennent à nos matchs mais avec le maillot des garçons. C'est leur nom derrière le dos. Donc, non, ici, ça change pour ça. Et oui, à Aston Villa, dans en fait tous les clubs, ici, on voit que chaque équipe a leurs fans. Donc, c'est vraiment beau et intéressant à voir.
Ben, tu parles justement d'autobus, de fans qui se déplacent. À ma connaissance, ça ne semble pas se faire en France tellement. Même un club comme l'OL Lyon ou le PSG, qui sont des grands clubs, même Wendy Renard l'avait déjà dit dans une entrevue, le club était en finale du temps où ça s'appelait l'Olympique Lyonnais. Dans une ville quelconque en Europe, il n'y a pas eu de déplacement de fans, alors que les FC Barcelone mobilisent des avions à la limite. Qu'est-ce qui se passe en France?
Je ne saurais pas répondre à ce qui se passe dans les clubs, mais je pense que c'est une question de volonté et de mentalité qui change un peu de la France à ici en Angleterre, par exemple. Je sais que, par exemple, il y a une finale qui joue bientôt entre PSG et Lyon en France, et elle va se jouer à Abidjan. Il n'y a aucun club, aucun fan qui se déplace, c'est quelque chose de dommage. C'est bien de faire connaître dans les autres pays, mais je pense que déjà le développer en France, ce serait déjà bien de remplir un peu les stades. Donc non, c'est quelque chose de dommageable, quelque chose qu'on voit ici en Angleterre. Donc je pense que c'est des pays où on peut prendre exemple pour tout ça, pour le développement des fans, développement de tout ce qui peut se passer en dehors du terrain. C'est quelque chose d'important pour nous d'avoir ce 12e homme qui nous suit pendant les matchs, des fois qui est super intéressant et super important pour nous. Donc c'est quelque chose à continuer, à faire progresser encore, parce que forcément on est encore loin de ce qui peut se passer chez les hommes, des 30-40 personnes dans les stades, on est encore un peu loin, mais c'est en progression. Donc c'est à nous aussi de faire du beau jeu sur le terrain pour donner envie aux fans et qu'il y ait de plus en plus de monde.
Après tes matchs, j'imagine que tu consultes la presse sportive ou la presse généraliste, section sport, ce que je fais régulièrement dans des médias anglais, dans des médias français. Et très souvent, on doit scroller avant de voir apparaître des femmes. Alors, par exemple, la BBC, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Ah! Soudainement, on parle des femmes. Est-ce que c'est normal d'être dans un hyperlien même? Parce qu'après tout, tu es dans un hyperlien. Hein. Ce n'est pas football, mais women's football.
Ouais, c'est on grandit. Je pense que le foot féminin est arrivé après le foot masculin. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est forcément moins importante dans le foot en lui-même. Le foot masculin génère beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de fans. Le business est plus grand, donc forcément, nous, on a aussi besoin de ce temps. On a besoin de l'investissement des clubs, l'investissement des joueuses. C'est comme j'ai dit, on est les actrices, donc on doit aussi donner envie aux personnes de venir nous voir, de nous regarder à la télé, pour qu'il y ait forcément des droits TV, des supporters. Donc c'est nous les actrices principales. Et je pense qu'aussi les clubs doivent se mobiliser pour nous faire grandir et pour nous aider justement dans cette évolution qui doit être positive et non à reculons, comme parfois on pourrait croire. Donc non, on grandit. Après, le fait que les hommes sont plus mis en avant aujourd'hui, c'est quelque chose de logique, dans le sens où ils sont plus suivis, il y a plus de monnaie, il y a plus d'argent. Forcément, le maillot des garçons, ils sont plus achetés. Les stades sont pleins, donc c'est quelque chose de normal, financièrement parlant. Donc les médias, forcément, ils veulent vendre du papier, c'est comme tout. Donc les médias, forcément, sont plus intéressés et mettent tout ce qui intéresse plus les gens en avant sur leurs médias, et c'est quelque chose de normal. Maintenant, c'est à nous de grandir, il faut aussi nous aider à justement à avancer et non pas à nous laisser toutes seules à vouloir se battre contre ça et tout le temps pouvoir nous rabaisser. Donc je pense que c'est quelque chose d'important de nous aider justement à se battre avec nous pour que les gens viennent voir du foot féminin et le regardent à la télé.
Alors, c'est évidemment l'Angleterre qui a inventé le foot. Est-ce qu'on peut dire que, aussi pour les femmes qui veulent évoluer dans le foot dès leur très jeune âge, pour les enfants, les adolescentes, c'est vraiment le football qui a les meilleures structures? J'ai l'impression qu'en France, pas toujours facile dans les communes de trouver la structure. Ça change, bien entendu. Mais si t'étais née anglaise, jeune enfant, est-ce que ça aurait été plus facile pour toi de faire du foot, d'après toi, parce que t'es en Angleterre?
Je sais pas, c'est encore trop tôt peut-être pour le dire. Je connais pas encore vraiment les formations anglaises. Je sais qu'en France, c'est de mieux en mieux. Les infrastructures et les structures pour les jeunes sont mieux mises en place. Je le vois de moi, par exemple, quand j'ai commencé le foot, j'étais vraiment la seule fille jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'au lycée. Donc aujourd'hui, je sais que c'est différent. Il y a plus des sections sportives où il y a vraiment des filles qui commencent. Elles ont des petites filles, elles ont 8-9 ans. Donc là, dans ce sens, on évolue pour la formation, donc c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'en Angleterre, ils sont en avance sur nous. De part, comme vous avez dit, le foot anglais, enfin le football est né en Angleterre, donc forcément, ils sont pionniers de ce sport, donc ils sont forcément en avance. Donc c'est quelque chose de super positif, quelque chose qu'il faut garder. Mais je pense que ouais, dans tous les pays, ça progresse. Mais je pense qu'en Angleterre, forcément, ils sont un peu en avance sur la formation.
Et globalement, est-ce que les athlètes féminines, selon toi, et les footballeuses, sont encore victimes un peu de préjugés ou les temps ont changé quand même? J'ai l'impression quand même que les temps ont changé. Mais est-ce qu'il y a encore des préjugés qui se maintiennent, selon toi?
Déjà, je pense, sans parler foot, il y a des préjugés sur la femme avant de parler de la footballeuse. Je pense que l'homme et la femme sont encore différents aujourd'hui dans ce monde, sans parler de la footballeuse et du footballeur. Donc, à partir du moment où il y a déjà l'homme et la femme qui a cette grande différence et ces préjugés qu'on a sur la femme encore aujourd'hui. Forcément, en tant que footballeuse, ça ne peut pas évoluer de la manière dont nous voulons. Mais ça a évolué, ça progresse, parce que maintenant, bah, les femmes, on se fait entendre, donc les footballeuses aussi. On montre que nous aussi, on peut faire des choses, on peut faire des choix, on est forte et on n'a pas forcément tout le temps besoin des hommes. Donc, c'est quelque chose qui évolue, mais forcément, les préjugés sont toujours là. Dans mon monde, le foot, forcément, quand un homme va regarder un match de foot féminin, ils vont dire que c'est moins rapide, que c'est moins fort, que c'est moins technique. Mais on n'est pas des hommes. Donc forcément, quand on regarde du foot féminin, il ne faut pas s'attendre à voir des hommes sur un terrain. Oui, on est moins rapide. Oui, on est moins forte physiquement. Mais c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer. Parce qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. C'est comme ça, c'est intrinsèque. Donc forcément, si les mentalités restent comme ça, on ne pourra pas avancer. Parce qu'on n'est pas des hommes, donc il ne faut pas s'attendre à regarder un match de foot garçon, mais il faut voir juste un match de football, juste la technique c'est la même, la tactique c'est pareil, l'envie c'est la même, on est amoureuse du ballon rond de la même manière. Donc c'est juste, en fait, je pense que cette vision qu'il faut changer, et ces mentalités, mais oui, les préjugés, il y en aura toujours, mais je pense que ça part aussi de toutes ces petites réflexions que certains hommes peuvent avoir sur les formes en regardant le foot.
Voilà. Je le rappelle donc, Océane Deslandes, défenseur central d'Aston Villa en Barclays Women's Super League. Terminons par deux questions toutes simples. Parlons sport, parlons foot. Et là, je m'adresse à l'analyste que tu es, l'analyste de foot, totalement objective, j'en doute, mais quand même totalement objective. Question toute simple. Est-ce qu'Aston Villa a des chances de gagner le championnat?
Cette année?
Oui.
Les filles ou les hommes?
Les filles, bien sûr.
Ah! Objectif, on va dire non, parce que on a perdu trop de points, on est déjà au mois de mars et la fin du championnat c'est mi-mai, donc même mathématiquement parlant, non, c'est pas possible, mais en tout cas on va donner le meilleur de nous-mêmes pour être le plus haut possible au classement. Ça va commencer par dimanche contre Manchester City, ça va être un match très important parce qu'elles sont premières, mais encore une fois dans le football et encore plus le foot anglais, rien n'est impossible, donc on peut gagner nos 3 points chez nous avec devant nos fans à Villa Park, donc ça va être un match super important pour viser le haut de tableau. Maintenant, non, gagner le championnat, c'est pas possible. Peut-être chez les hommes, par contre, c'est encore possible. Donc on les supporte aussi, nous, parce qu'on regarde le foot masculin, on le regarde, on l'aime aussi. Énorme, mais on a de beaux objectifs, de grands objectifs. Et le but, c'est de rien lâcher jusqu'à la fin de la saison. C'est ça notre mentalité, c'est ça la beauté de notre sport.
Et je tiens à préciser que nous enregistrons début mars, après deux matchs de l'équipe nationale de France, les Bleus en préparation de la Coupe du Monde 2027. Et ça va bien. D'après toi, est-ce que Laurent Bonadei est sur la bonne voie pour être présent au Brésil l'année prochaine?
J'espère, parce que l'équipe de France, on est censé être une très grande, très grosse nation, de par les qualités individuelles déjà, de par un pays qui est très développé dans le foot. Donc j'espère qu'on va se qualifier, je pense que nos objectifs doivent être plus grands que la qualification. On doit aller beaucoup plus loin dans la compétition parce qu'on a les Jeux pour, on a le championnat pour. Je pense que la D1, ça reste quand même un bon championnat. Donc toutes les nations maintenant sont dures à jouer, sont fortes, progressent, évoluent. Donc rien ne sera facile, encore une fois. Mais oui, j'espère qu'on va se qualifier au Brésil et même aller beaucoup plus loin que la qualification.
En conclusion, allez les Bleus, n'est-ce pas?
Allez les Bleus.
Voilà. Océane Deslandes, donc en duplex avec Birmingham en Angleterre. Merci beaucoup pour l'entretien et je te souhaite une bonne fin de saison. Merci beaucoup. L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. L'histoire jugera 102.3 FM.